Un jour, avant que le mal apparaisse, Paul a vu un documentaire sur ce que deviendrait la Terre si les humains disparaissaient de sa surface. Un scénario digne d'un film de science-fiction. Au bout d'un an, arbres et plantes pousseraient de manière anarchique. Les espèces se reproduiraient librement. Quelques décennies plus tard, la végétation aurait recouvert toutes les routes et envahi les immeubles, qui commenceraient à tomber en ruine. Les villes formeraient un nouvel écosystème, comme le monde n'en a jamais connu. Le corail recouvrirait les épaves. Les océans se seraient remis de la surpêche. En 200 ans, le CO2 produit par l'homme serait évacué de manière notable. Les hivers deviendraient de plus en plus froids. Les cours d'eau retrouveraient leur lit naturel. Les dernières constructions encore debout, comme les barrages ou la tour Eiffel, céderaient les unes après les autres. Ensuite, Paul ne se souvenait plus très bien. Lui restaient des images de forêts à perte de vue et de rivières magnifiques qui auraient pu consoler n'importe quel humain de sa future disparition. Le coup est pris entre les arceaux du piège en laiton. Un petit coup mince et fragile, brisé net par le système à ressort. Le volatile est raide, les ailes froissées, les pattes repliées. Paul dégage l'oiseau mort, si minuscule qu'il n'aurait pas valu le prix d'une cartouche. Il l'enfouit dans sa besace. Chaque prise, même modeste, est une source de satisfaction pour lui. Il capture des passereaux, des fauvettes à tête noire, des grives et même des rouges-gorges. Contrairement à une idée répandue, presque toutes les espèces sont comestibles, même si les plus petites doivent être consommées le jour même. Les oiseaux n'attrapent pas le mal. Paul a appris à les saisir sur le feu, plus qu'à les cuire, pour éviter qu'ils soient réduits à l'état de squelette. D'une petite boîte en plastique, il extrait un insecte ailé et le fixe au centre de l'engin. Il tend le piège, le replace au pied de l'arbre, puis continue sa tournée. À présent, ils sont assis sur le semblant de terrasse devant la ferme. La nuit est tombée. Ils ont regardé le soleil disparaître derrière la ligne de crête en buvant du thé et en mangeant le reste d'un paquet de gâteaux. Paul se montre de plus en plus attentif au rationnement. D'après son inventaire et ses calculs, le stock de conserves leur permettra de tenir un mois et demi. Après, les choses deviendront plus compliquées. Il économise en particulier les douceurs et les biscuits, car ils sont pour eux, en fin de journée, une petite consolation. Heureusement, il y a le potager, qui finira par devenir leur principale source de nourriture. Au début du printemps, ils ont planté les choux, les carottes, les laitues, les betteraves. Dans quelques semaines, ce sera le tour des tomates, des courgettes et des aubergines. Autrefois, le potager pouvait produire 300 kilos de légumes par an. Mais avec la sécheresse et le changement climatique, le rendement est devenu plus faible chaque année. À terme, Paul songe à en doubler ou à en tripler la surface. Il allume son briquet et l'approche de sa cigarette. Le papier et le tabac grésillent.
« Je n'aime pas quand tu fumes, » dit Chloé.
« Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? T'en veux une ?»«
Pouah !»
Mathieu fumait des gauloises. Avant son accident, il se limitait à 2 ou 3 cigarettes par semaine pour faire durer son maigre stock. Paul a trouvé 2 paquets dans un tiroir. Il en fume une chaque soir. La première bouffée est celle qu'il préfère. Elle l'étourdit, le grise, lui fait tout oublier. Mais la sensation s'évanouit aussi vite qu'elle est venue. Après la première taf, il crapote. Il y a l'alcool aussi, mais il n'en boit presque pas. Il préfère garder les idées claires. Une bouteille de scotch, une de whisky et quelques autres de vin blanc. Mathieu ne buvait pas lui non plus. Personne ne se rappelait d'ailleurs d'où elles venaient, ces bouteilles. Au-dessus d'eux s'étale un grand fouillis d'étoiles. L'absence de pollution lumineuse rend le ciel limpide. Au mois d'août, ils avaient l'habitude de s'allonger tous les trois dans le jardin, sur des chaises longues, pour regarder les étoiles filantes. Une pluie magnifique. Paul faisait mine de les compter, mais il y en avait tant qu'il finissait par perdre le fil. Pourquoi d'ailleurs parlait-on d'étoiles filantes, alors que c'était de simples météorites pénétrant dans l'atmosphère? Paul a toujours aimé le ciel. Quand il était gosse, il possédait tout un tas de bouquins sur l'univers et les planètes, une grande carte des constellations accrochée au mur de sa chambre et ses étoiles phosphorescentes qu'on colle au plafond et qui scintillent dans le noir. Il a toujours été attiré par l'inconnu, par ce qui est plus grand que lui. Il relève la tête et repère en quelques secondes la grande ours, Andromède, Orion, le grand chien et l'étoile du berger, qui, elle non plus, n'est pas une étoile, mais la planète Vénus. Ces constellations sont immuables, indifférentes à ce qui peut se passer sur Terre. À l'époque où on a inventé leur nom, il y a 2000 ans, on croyait que les astres baignaient dans un fluide qui n'opposait aucune résistance à leur mouvement. Ça, Paul l'a lu dans un bouquin. « Est-ce que c'est vrai que les étoiles qu'on voit sont déjà mortes ?» demande Chloé. Paul tire sur sa cigarette. « Non, c'est de la blague. Elles peuvent vivre des milliards d'années. En théorie, si la plus proche des étoiles mourait, sa lumière mettrait encore 10 minutes pour parvenir jusqu'à nous. Mais dans la vraie vie, il n'y a aucune chance que ça arrive. Celles-là, elles sont toutes bien vivantes. »
Dommage.
Paul aimerait lui aussi s'accrocher à cette idée, que les choses mortes puissent encore exister à nos yeux, que le passé vive dans le présent.
Est-ce qu'il va mourir ?
Paul aspire une dernière bouffée, puis écrase sa cigarette dans une boîte de sardines recyclées en cendrier.
Je ne sais pas,
répond-il en évitant de croiser le regard de Chloé.
Moi, je sais qu'il va mourir. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve de l'aide.
Quelle aide ?
On pourrait partir d'ici, prendre la Jeep.
Il n'y a quasiment plus d'essence dans le réservoir. On ne ferait pas 5 kilomètres avec.
Alors y aller à pied ?
Paul redoute ce genre de conversation. Il a l'impression que Chloé refuse toujours d'accepter la réalité.
Ici, on est à peu près en sécurité. Dehors, tout peut arriver. Il n'y a plus rien, tu comprends ? Les magasins ont tous été pillés. Ça veut dire que pour s'en sortir, il faut s'en prendre aux autres, aller voler le bien de son voisin. C'est ce que je crains le plus.
Ne te fais pas d'illusions. Ils finiront par débarquer ici un jour ou l'autre. Un silence s'installe entre eux.
Les survivants ?
Finit-elle par dire.
Oui.
Les gens se terrent encore chez eux, mais ça ne durera pas. Quand ils n'auront vraiment plus rien à se mettre sous la dent, ils seront prêts à tout, y compris nous éliminer.
Dans sa bouche, le goût laissé par la cigarette l'écœure à présent. Il pense à la jambe gangrénée, au pus, à l'odeur de la mort.
« Demain, »
poursuit-il,
« je ferai une tentative. Je partirai tôt. S'il y a quelque part quelqu'un qui puisse nous aider, je le trouverai. »
Au début, personne n'avait pris la menace au sérieux. On parlait d'un agent infectieux dont on arriverait facilement à freiner la progression et qu'on pourrait à terme éradiquer. Mais rien ne s'était passé comme prévu. À la ferme, il n'y avait ni télé, ni portable, ni internet. Mais dès qu'ils avaient eu vent des premiers cas, ils s'étaient procuré une tablette et une clé 4G temporaire pour suivre les actualités et les déclarations du gouvernement. Tout était sous contrôle, bien sûr. Braves gens, dormez tranquilles.
Cette fois, on y est, avait dit Mathieu. Il le savait, au fond de lui, que tout ça finirait par arriver. Quoi exactement, il n'aurait pas pu le dire, mais il prédisait depuis des années que ce serait gigantesque et que le monde n'y survivrait pas. À bien y réfléchir, il ne fallait pas être grand clair pour s'en douter. Plus rien ne tournait rond. Les forêts brûlaient dans le cercle polaire arctique, les ouragans dévastaient les Bahamas et les États-Unis, la fonte des glaciers libérait virus et bactéries, la sécheresse et la famine provoquaient des guerres et fragilisaient des États. Le dérèglement climatique entraînait un dérèglement géopolitique à grande échelle. Bombes nucléaires, virus, catastrophes naturelles. On ne savait pas ce qui ferait basculer le monde, mais on savait que quelque chose de démentiel arriverait. Il fallait juste attendre et l'avenir trancherait. Le mal s'était répandu sur tout le globe comme une traînée de poudre. Il tuait, sans distinction d'âge ou de sexe. Personne n'était à l'abri. Il tuait par milliers, par centaines de milliers, par millions. Les hôpitaux étaient submergés, les grandes surfaces dévalisées. La panique gagnait les populations. Bientôt plus d'essence, plus d'électricité, plus de communication. La fin du monde. L'apocalypse.